L'invité de la rédaction ce matin, ce lundi 13 octobre à 8h23, nous retrouvons Souhil El Hachmi en direct avec son invité aujourd'hui, Saïd Sahnoun, président directeur général de la Sonatrach. Monsieur, madame, bonjour.
Bonjour madame.
Alors vous tenez actuellement au niveau d'Oran une importante conférence internationale sur l'industrie du gaz. C'est l'occasion pour vous d'expliquer la démarche de Sonatrach en matière d'exploitation des gaz non conventionnels. Les gaz non conventionnels dans la politique de développement de Sonatrach, c'est une priorité, monsieur Sahnoun.
Merci de m'avoir invité madame. Je commence par saluer les auditeurs de la chaîne 3. Les gaz non conventionnels, parlons-en. Une précision à apporter, ils sont de deux types. Les formations compactes et les formations du type shale, donc type argileux. Les gaz compacts, Sonatrach a déjà mis en œuvre son programme de développement. Il y a deux projets aujourd'hui qui sont en cours de production, celui de Gassetouil et celui de Roudnous, qui exploite les carzites de Hamra. Et donc on est rentré de plein pied dans le développement et l'exploitation des ressources du type type. Une bonne partie du gisement de Hassin Soued est du type type également, donc du type compact. Des ressources du type argileux, donc ce qui est communément appelé shale gas. Nous avons un potentiel qui est énorme. On est liquidité des troisièmes réserves techniquement récupérables au monde, des volumes qui sont considérables. Pour parler de priorité ou non, nous n'avons pas le droit d'attendre 10 ou 15 ans pour commencer à apprécier, évaluer et éventuellement développer ces ressources.
Vous considérez que pour vous, dans votre stratégie de développement, 10-15 ans, c'est trop tard?
Commencer ce que nous faisons aujourd'hui dans 10-15 ans constitue un retard et une erreur à ne pas commettre.
Alors, pourquoi potentiel est évalué, identifié aujourd'hui, puisque vous parlez de gisements importants dont disposerait l'Algérie, M. Sahnoun.
Donc, il y a 7 bassins qui ont été identifiés aujourd'hui pour des volumes en place qui sont de l'ordre de presque 4500 TCF. Un TCF, c'est à peu près 28 à 29 milliards de mètres cubes. Si on considère, par rapport à ces réserves en place, enfin, ces volumes en place, un taux de récupération qui est plus ou moins raisonnable, par rapport à l'état des lieux en Algérie aujourd'hui, ce serait de 15%. Donc ça nous laisse quelque chose comme 700 TCF. Alors, quand je dis que 15% est un taux qui est suffisamment raisonnable, sur certains pays aux États-Unis, les gens arrivent à produire des ressources du type shale à des taux de récupération qui ont atteint aujourd'hui 30%. Priorité, oui, c'est un élément dans la base de réserve de Sonatrach qui a tout son intérêt. Elle constitue surtout. Et il faudrait qu'on tire profit de ce potentiel de croissance et de le valoriser. C'est quelque chose qui vient renforcer et appuyer notre base de réserve.
Mais est-ce qu'il faudrait aller vers les gaz de schiste malgré toutes les craintes et les polémiques suscitées aujourd'hui, M. Sahnoun?
Je pense, madame, que cette conférence, au-delà du fait qu'elle ait constitué un excellent forum pour un échange de points de vue et d'expérience, a surtout permis de reformuler et de repréciser la problématique du développement et de l'exploitation des gaz de schiste. Beaucoup d'idées reçues. Les problèmes de développement des shales ne sont pas tous réels. Le shale, c'est quoi? C'est la mise en œuvre de solutions techniques qui sont utilisées sur les ressources conventionnelles. Ce qui change, c'est l'échelle des opérations. C'est le gigantisme de ces opérations. On fait quoi pour exploiter les gaz de schiste? C'est des forages horizontaux. Nous avons fait un premier forage horizontal en 92, donc nous avons 22 ans d'expérience. Un nombre important de puits ont été réalisés en forage horizontal. Le développement de l'Ain Saleh Gaz a été fait à 60-70% sur la base de forages horizontaux. On ajoute quoi à cela au forage horizontal? On ajoute des fracturations hydrauliques. Sauf que sur un forage conventionnel, on a recours à une ou deux fracturations. Ici, on change d'échelle. On fait entre 10 et 12 fracturations par puits. Si vous ne prenez pas les mêmes précautions dans un forage conventionnel, vous vous exposez au même risque que celui qu'on pourrait appréhender par rapport à un forage non conventionnel. Donc c'est le respect des procédures, c'est la prise en considération des procédures et le respect des règles de l'art qui sont à l'origine du succès ou de l'échec de cette technique. Mais on n'invente rien de plus qu'un changement d'échelle d'opération.
Mais vous prenez toutes les mesures nécessaires pour éviter, par exemple, qu'il y ait des contaminations des nappes, de l'eau et de l'environnement aujourd'hui, M. Sahnoun?
Il y a deux choses. Il y a deux aspects à ce que nous essayons de faire. Il y a la protection des aquifères. Aujourd'hui, je pense que l'espace entre les formations aquifères et les formations qui contiennent des ressources argileuses est suffisante pour que nous puissions développer valablement des programmes de forage qui nous permettent de nous affranchir du risque de contamination, mais c'est la qualité de l'ouvrage qui est la clé pour éviter le risque.
Alors le potentiel à développer et à exploiter, comment s'organiser et mettre en place les moyens pour aller vers les non-conventionnels, monsieur Sanoui?
On n'est pas resté insensible à ce qui se faisait de par le monde. La production des États-Unis en 2001, c'était un TCF, donc l'équivalent de 30 milliards de mètres cubes, à partir des ressources non conventionnelles. Bien que les États-Unis, quand ils vous confient leur niveau de production, il n'y a pas de distinction entre ce qui vient des compacts et de ce qui vient des shales. Mais disons que l'un dans l'autre, c'est une production de 30 milliards de mètres cubes. 10 ans après, en 2011, le TCF était devenu 11, donc un peu plus que 300 milliards de mètres cubes, soit 50% pratiquement de la consommation des États-Unis. Qu'est-ce qui a été à l'origine de ce succès, surtout sur les aspects visibilité commerciale? C'est un petit peu la réorganisation de l'activité du travail. Les deux aspects techniques, c'est quoi? C'est le forage horizontal, la fracturation hydraulique multiple. Qu'est-ce qui a été à l'origine du développement que cette activité a connu? C'était un petit peu les effets induits par, d'une part, les projets technologiques et l'apprentissage, qui ont été un petit peu l'élément vital dans le succès de cette technologie.
Mais qu'est-ce qui est fait aujourd'hui au niveau de Sonatrach à moyen et long terme? Est-ce qu'on a une visibilité sur ce que nous allons faire et engager en matière d'action concrète pour ce qui concerne les non-conventionnels, M. Sanoui?
J'allais enchaîner pour dire qu'en 2009, une fois que le concept a été confirmé, donc nous avons lancé un certain nombre d'études, 5 au total. Les résultats de ces études ont toutes confirmé le caractère conséquent de ces ressources. Nous sommes engagés dans un effort d'accompagnement avec les partenaires qui ont le mieux réussi et qui ont une exploitation avérée de ces ressources. Donc on a signé 5 contrats de coopération technique. Sur certains, nous sommes en train d'envisager des contrats de prospection dans lesquels on pourrait envisager d'autres choses que la prospection en sens où on l'a entendu jusque-là. Donc c'est de la réelle appréciation. Ça, c'est ce que nous faisons avec les partenaires pour que le développement et l'exploitation de ces ressources soient réussis. De notre côté, Sonatrach, en effort propre, a lancé un programme d'appréciation. Donc en 2012, nous avons foré deux puits. C'est des puits qui étaient verticaux, mais le but de ces forages, c'était plus de recueillir des données et de se préparer au pilote. Le pilote, c'est quoi, madame? Le pilote, c'est la production de l'information. Le pilote n'a pas pour vocation de produire à une échelle industrielle ou commercialement justifiée. Mais c'est la production de l'information. Si puis on révélait des résultats qui ont, une fois de plus, confirmé la tendance à poursuivre cet effort. Et là, donc, depuis juillet 2014, nous avons entamé notre projet pilote. Nous sommes sur le point de terminer le forage et la complétion du premier puits. Les résultats, à partir des études, des études de diagraphie et de ce qu'on a recueilli comme données de carottes, ont été encourageantes. Reste à le prouver sur le projet technique. Vous avez, sur le plan de production, vous avez tout à l'heure aussi parlé, madame, de ce que nous faisions pour la protection de l'environnement. Au-delà de la protection des aquifères, il y a aussi un problème de torchage. Une question de torchage que nous avons pris valablement en charge. Nous avons implanté ce forage à 20 km de la ville de Ain Salah. Nous comptons, si la production est dans les proportions attendues, dévier cette production de gaz vers une centrale, la centrale électrique de Ain Salah, pour sa conversion en énergie électrique.
Donc en termes clairs, vous travaillez, vous exploitez, et bientôt, peut-être, puisqu'on n'avait pas encore fixé d'échéance, mettre sur le marché les gaz de schiste.
Le processus est un peu plus laborieux que ça. On n'est pas en train d'exploiter. On n'est pas en train de produire. On est en train de produire de l'information, pour que ce soit très clair, madame. Dans le programme pilote que nous avons conçu, il y a 3 puits à forer, donc il y a 2 autres puits à forer. Je ne pense pas que vous puissiez vous engager dans des investissements aussi lourds et aussi onéreux sur la base de 3 puits et d'un pilote. Il faut confirmer beaucoup de choses qui ne sont pas toutes disponibles aujourd'hui.
Alors, M. Saïd Sahnoun, beaucoup de questions pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Vous parlez d'investissements importants qui vont être consentis. De quel ordre ils seront, M. Sahnoun?
Il ne serait pas bon de vous donner l'ordre, mais plutôt de parler des chaînes d'opération. Je peux parler d'un projet qui produirait 20 milliards de mètres cubes par an. Il faudrait forer 200 puits par an. Il faudrait employer entre 40 et 50 appareils de forage. Il ne s'agit pas de les forer, mais de les compléter, donc de les stimuler. Je pense que pour produire 20 milliards avec un plateau de 20 ans, c'est pratiquement 3500 à 3600 puits à forer. si on prend un coût du forage une fois qu'on l'aurait optimisé, donc vous imaginez aisément ce que représenterait le développement.
Mais la question qui se pose aujourd'hui, M. Sahnoun, c'est pour l'Algérie qui devra payer la technologie, l'extraction, le savoir-faire, la formation. Certains considèrent que le prix de revient de ces gaz de schiste serait en deçà des bénéfices. Quel est votre commentaire justement sur cette question? On investirait 6 dollars pour, en fin de compte, ne gagner que 3 dollars.
Écoutez, madame, j'avais dit tout à l'heure que c'est un potentiel de croissance qu'il faut valoriser. Il est là. Est-ce que je devrais me contenter d'une marge de 1 dollar par million de BTU produits ou l'ignorer? Je pense que c'est un problème d'opportunité. Mais il faudrait rester quand même assez vigilant et assez prudent sur ces concepts de développement de gaz de schiste. Ceux qui risquent aux États-Unis, ce ne sont pas forcément ceux qui le produisent sous sa forme sec, gaz sec. Mais ceux qui réussissent et qui dégagent des intérêts, des bénéfices ou des profits comparables à ce que l'industrie offre aujourd'hui, ce sont ceux qui produisent des shale gas humides. Donc vous récupérez toute la partie condensée IGPL, qui sont des produits hautement valorisants, qui vous permettent d'amortir et de réduire sensiblement les coûts. Donc il y a cet aspect des choses à ne pas négliger. Et c'est un petit peu ce qui fait l'intérêt de cette activité aux États-Unis.
Mais justement, pour nos gaz de schiste, avec les Américains qui arrivent avec de grosses quantités sur leur marché, pour leurs besoins, pour le marché international, est-ce qu'on va trouver preneur, M. Sahnoun?
Les enjeux sont là, c'est qu'il est assez difficile de prédire de quoi sera fait l'avenir. Je pense que l'exemple le plus indiqué pour qu'on puisse illustrer un petit peu ce qui peut se produire, c'est qu'en 2007, ou au début des années 2000, les États-Unis étaient considérés comme un pays importateur de gaz. Les États-Unis construisaient des usines de regasification. Aujourd'hui, les États-Unis s'apprêtent à construire des unités de liquéfaction. Donc, le temps qu'on arrivera à produire ces ressources de manière, disons, industrielle ou à une échelle industrielle, on ne saura pas de quoi fait le marché. Ce qu'il convient de retenir, madame, c'est qu'en développant les gaz de schiste, vous n'allez pas avoir de la rente. Il faut aller chercher l'efficacité et la rentabilité.
Alors, c'est un débat riche et divergent, mais la question qui se pose aujourd'hui pour certains, c'est comment Sonatrach va se mobiliser pour prendre l'ensemble des problèmes et que certains considèrent qu'ils sont extrêmement nombreux et très importants. Et ils ne sont pas en sous-sol, mais à la surface. Je reprends une déclaration faite lors des débats par une personne qui était présente.
Le problème est un problème d'échelle.
Formation, c'est pris en charge?
Formation, on a déjà plus d'une centaine de personnes qui ont bénéficié de formation sur terrain, au niveau des opérateurs, mais aussi au niveau des sociétés de services. On a une cinquantaine d'ingénieurs à qui on a dispensé une formation spécifique sur le développement des gaz de schiste, sachant que le développement n'est pas seulement une question d'engineering et d'opération, mais surtout d'organisation logistique et de gestion de projet.
Donc, pour le transfert de savoir-faire, des partenariats qui se font et qui vont se faire
suffisamment avancés avec un certain nombre de partenaires, ceux qui réussissent le mieux dans là où cette activité a réussi, donc aux États-Unis. Donc nous voudrions que le transfert d'équipements, de technologies, soit réalisé le plus efficacement vers l'Algérie. Donc ça, c'est quelque chose qui est en cours. Mieux encore, avec les discussions que nous avons avec un partenaire qui est en train de nous assurer un certain accompagnement, c'est la réalisation d'un centre d'excellence aussitôt que nous commencerons le développement de ces ressources. Centre d'excellence, en ce sens que c'est un transfert de savoir-faire et de technologie dans toute sa dimension.
Alors, Sonatrach, c'est aussi le développement des énergies conventionnelles, le pétrole. Il y a eu baisse des ventes cette année. Est-ce que vous pensez que ceci pourrait peut-être avoir des effets négatifs sur le plan de développement de Sonatrach pour cette année, Monsieur Sahnoun?
Il n'y a pas eu de baisse de vente. Je pense que depuis un certain nombre d'années, depuis 3 ou 4 années, c'est la première fois où on est arrivé à opérer une inversion de la tendance. Donc on a produit sur les 9 premiers mois de l'année, nous avons produit 5% de plus que ce qui a été produit en 2013. Nous n'avons pas de soucis particuliers par rapport à cet aspect de...
Mais en 2013, nous avons eu un réel problème. On parle de baisse de vente à hauteur de 20%. Est-ce que vous pensez que c'est la raison pour laquelle aujourd'hui l'Algérie doit impérativement diversifier son bouquet énergétique?
Je dirais que la baisse de vente n'est pas ce que nous tirons comme conclusion. Nous avons toutes les chances de continuer à opérer une croissance de la production. Nous avons eu des difficultés à assurer la production pour des considérations pendant l'exercice 2013, mais les choses sont en train de se remettre en place. Donc le retour de Tighintourin, qui a été un petit peu à l'origine de la baisse de production, et dans une moindre mesure même à Aïn Salah pendant 2013, les choses se remettent en place. Nous avons un retour de l'ensemble des opérateurs étrangers sur ce site.
Elle est fonctionnelle entièrement, l'usine de Tighintourin.
Elle est fonctionnelle de train. Nous sommes confiants et donc tout a été fait pour que le démarrage du troisième train puisse s'opérer avant la fin de l'année 2014. Les gens sont mobilisés sous forme d'opérateurs et sous forme d'entrepreneurs. Donc, que ce soit les gens de BP Statoil, leur présence sur le site est vérifiable. Et les gens de JGC également qui opéraient pour le compte du projet Boosting est là aussi confirmé.
Alors justement, vous parlez de croissance de la production pour cette année. Une croissance à hauteur de combien, M. Sahnoun?
Nous avons une croissance de 5% supérieure à celle qui a été faite en 2013.
Les projections à venir?
La tendance est à la reprise.
Alors, pour les investissements consentis aujourd'hui par Sonatrach, qui sont les mêmes ou alors ils sont en évolution? On a annoncé pratiquement 80 milliards de dollars qui seront investis à horizon 2017.
Le chiffre se maintient et nous continuons à rechercher d'autres opportunités de développement et de croissance. Et il n'est pas à exclure que le montant des investissements soit revu en hausse.
À hauteur de combien? Vous avez des projections?
11.
À moyen ou long terme?
Je dirais en hausse. Sur l'exercice sur le PMT 2015-2019, je pense qu'il y a une tendance parce qu'il y a beaucoup d'opportunités que nous sommes en train de mettre à profit et qui vont forcément faire appel à des investissements supplémentaires.
L'offshore, par exemple?
L'offshore, nous sommes là aussi, donc c'est un sujet sur lequel nous sommes en train d'avancer d'un pas sûr. Le traitement a été terminé, nous sommes en train d'interpréter. Nous pensons avoir une implantation, notamment sur la partie orientale qui semble être la plus prometteuse, dans un mois ou deux, avec la perspective de pouvoir commencer un sondage le quatrième trimestre 2015.
Plus de raffinage et de raffinerie également pour l'avenir, M. Sahnoun?
Je pense que le programme de raffinage a été largement explicité et présenté. Nous le maintenons en l'état.
Alors justement, par rapport à ce plan de développement, est-ce qu'on a une visibilité sur les actions prioritaires aujourd'hui, M. Sahnoun? En plus, bien sûr, des investissements qui seront consentis, les 80 milliards de dollars à horizon 2017.
Je pense qu'il y a le premier pavé le plus important, c'est un petit peu l'intensification de l'effort de recherche. Donc, nous sommes en train de nous déployer d'une manière très intense. Notre budget de recherche, c'est pratiquement l'équivalent de 3 milliards de dollars. À cela, donc, il y a les projets de développement qui sont en train de se mettre en place. J'avais également précisé que nous investirons pour le développement de nouvelles capacités de transport et l'extension des capacités existantes presque 3,5 milliards de dollars sur le PMT. Mais plus important, c'est le développement, non seulement de projets pétrochimiques, et également le programme de raffinage qui a été assez largement développé. Mais la pétrochimie sera un autre axe de développement.
Pour lequel vous allez consentir une enveloppe de l'ordre de combien, M. Sahnoun?
Je dirais que sur deux ou trois projets, ceux qui sont les plus diversifiés, ceux qui répondent le mieux aux attentes de l'industrie locale et un petit peu qui revêtent un aspect stratégique, il serait aisé de parler de 10 milliards de dollars.
Alors, on est pratiquement à la fin de l'année. Est-ce qu'on peut peut-être avoir des indicateurs sur les recettes de Sonatrach cette année, éventuellement, puisque vous parlez, c'est-à-dire d'une hausse de la production à hauteur de 5%. Est-ce qu'on pourrait avoir une estimation? On va dépasser la barre des 60 milliards de dollars ou un peu moins, M. Sahnoun?
On devrait rester autour de ce montant, bien entendu, sous réserve que la stabilisation des prix intervienne.
Quel montant?
Autour du montant que vous avez cité, donc.
Les 60 milliards de dollars?
On ne serait pas loin des 60 milliards de dollars.
Monsieur Saïd Sahnoun, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup.
C'est moi, madame. Merci.
Bonne journée et bon courage. Merci.